Zacharie 3, page 650. Il me fit voir Joshua, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan se tenant à sa droite pour s'opposer à lui. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te tense, Satan, que l'Éternel qui a choisi Jérusalem te tense. Celui-ci n'est-il pas un tison sauvé du feu? Et Joshua était vêtu de vêtements sales et se tenait devant l'ange. Et l'ange prit la parole et parla à ceux qui se tenaient devant lui, disant, « Ôtez de dessus lui les vêtements sales. » Et il dit, « Regarde, j'ai fait passer de dessus toi ton iniquité, et je te revais d'habits de fête. » Et je dis qu'ils mettent une tiare pure sur sa tête, et ils mirent la tiare pure sur sa tête, et le revêtirent de vêtements. Et l'ange de l'Éternel se tenait là. Et l'ange de l'Éternel protesta à Joshua, disant, « Ainsi dit l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, et si tu fais l'acquit de la charge que je te confie, alors tu jugeras aussi ma maison, et tu auras la garde de mes parvis, et je te donnerai de marcher au milieu de ceux-ci qui se tiennent devant moi. Écoute, Joshua, grand sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui servent de signes, ou de prodiges ou de miracles. Car voici, je ferai venir mon serviteur le germe. Car voici la pierre que j'ai placée devant Joshua. Sur cette seule pierre, il y aura 7 yeux. Voici, j'en graverai la gravure, dit l'Éternel des armées. Et j'ôterai l'iniquité de ce pays en un seul jour. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous convierez chacun son prochain, sous la vigne et sous le figuier. Jusque-là pour une première lecture. Nous savons bien comment cette prophétie a été écrite et donnée au peuple, avec les deux prophéties qui précèdent et qui suivent, Agée, Zacharie et Malachie, sont les trois prophéties qui ont été adressées au peuple remonté de la transportation de Babylone, qui résidue d'une 40 000 de personnes, qui étaient remontées après les 70 ans de transportation, pour continuer, dans une merveilleuse grâce de Dieu, l'histoire du peuple qui avait été, pour ce moment-là, interrompue par sa propre infidélité et par la captivité. L'histoire du peuple est racontée dans les livres d'Esdras, de Néhémie, dans une certaine mesure d'Esther, et puis le message au cœur du peuple est présenté dans les trois prophéties d'Agée, de Zacharie et de Malachie. Les prophéties d'Agée et de Zacharie sont contemporaines, à quelques mois près, et puis la prophétie de Malachie a suivi, passablement plus tard. En Zacharie, on peut trouver des gloires merveilleuses de Christ, et c'est la pensée que j'avais, présenter quelques-unes des gloires de Christ dans la première partie du livre. Nous savons que ce livre est divisé naturellement en deux parties, puisque le début du chapitre 7 est caractérisé par un double astérisque qui marque une division profonde du livre. Dans les 6 premiers chapitres, nous savons que c'est le livre des visions. Et dans la seconde partie du livre, chapitre 7 à 14, c'est le livre des oracles. Alors, ce livre des visions comprend 8 visions successives qui ont chacun un trait qui nous dit quelque chose de la gloire de Christ. Le temps ne permet pas, dans une seule réunion, de considérer l'ensemble de ce très beau sujet. Je résume simplement les 3 premières visions qui se trouvent dans les 2 premiers chapitres. Le passage que nous avons lu au chapitre 3 caractérise la 4e vision. La première vision, elle se trouve au verset, on a dit dans les têtes de paragraphe, au verset 7. Du chapitre 1. Le prophète, qui est encore un jeune homme, il est appelé jeune homme quelque part, voit une vision de nuit, un homme qui était à cheval, un cavalier, qui se tenait parmi les myrtes. Le myrte est l'arbre qui poussera dans le désert lorsque le moment du millénium, de la bénédiction de la terre, sera revenu. Alors nous voyons ainsi Christ qui est au fait de toutes les voies de Dieu à l'égard de la terre, qui contrôle toutes choses, et cela, puisque nous sommes sur le terrain des prophéties de l'Ancien Testament, en rapport avec lui-même, avec Christ et avec Israël. Alors, cette prophétie annonce quelque chose, au verset 17, « Mes villes regorgeront encore de biens, et l'Éternel consolera encore Sion, et choisira Jérusalem. » La seconde prophétie et la seconde vision est au verset 18, c'est la fin du premier chapitre. On voit quatre cornes et des ouvriers. Quatre d'ailleurs comme les quatre vents des cieux, comme les quatre généraux qui ont succédé à Alexandre, comme désignant l'ensemble du monde. Quatre cornes qui sont le symbole du pouvoir. Eh bien, ces cornes qui avaient initialement dispersé Jérusalem, qui avaient été un instrument terrible dans la main de Dieu pour le jugement du peuple infidèle, pour le ramener dans son cœur à Dieu. Verset 21. Que viennent faire ceux-ci, ces cornes-là qui ont dispersé Judas? Eh bien, que personne ne levait la tête. Ceux-là sont venus pour les effrayer, pour jeter loin les cornes des nations. Un jour, Dieu réglera son compte avec les ennemis du peuple. C'est terrible de penser que, d'un côté, les nations ont été à un moment même l'instrument de vengeance, de châtiment par Dieu à l'égard de son peuple infidèle. Eh bien, ces nations vont à payer pour ce qu'elles ont fait à l'égard d'Israël, parce que, et c'est l'expression qu'on trouve dans la vision suivante, elles ont touché à la prunelle de leur propre œil. Chapitre 2, le verset 8. Celui qui vous touche, touche la prunelle de son œil. C'est une pensée importante et peut-être difficile à comprendre. Comment, en même temps, les nations sont dans la main de Dieu, ainsi un instrument de vengeance. C'est en Ésaïe 10 qu'il nous est dit que la Syrie est la verge de la fureur de Dieu. Ésaïe 10, le verset 5, « Ah, la Syrie, verge de ma colère, le bâton qui est dans leurs mains, c'est mon indignation. Je l'enverrai contre une nation profane, je lui donnerai un mandat contre le peuple de ma fureur pour le butiner et le piller. » On a pu d'ailleurs se poser la question au moment de la guerre du Golfe, si ce n'était pas le préliminaire de certains événements futurs. Israël était resté tranquille, sans intervenir, et les nations représentées ici par la Syrie l'ont attaqué sans cause. Mais derrière cela, qu'y a-t-il? Il y a le fait que ceux qui sont maintenant rassemblés par la providence de Dieu, encore dans l'impiété, encore sur leurs yeux le voile, ce voile qui ne sera ôté que lorsque la plénitude des nations sera entrée, eh bien Dieu intervient quand même. Alors le prophète au chapitre 2 lève les yeux, regarde et voici un homme, dans sa main un cordeau à mesurer, c'est la troisième vision. De quoi s'occupe-t-il? De mesurer la ville. Une mesure d'ange pour la Sainte Cité, la Nouvelle Jérusalem. Une mesure immense. 144 000 coudées. Mesure d'homme, c'est-à-dire mesure d'ange. La largeur, la longueur, la hauteur, tout est égal. Il y a une perfection finie et infinie. Ici, nous sommes encore sur la terre, sur la Jérusalem, en attendant que soit instituée la Nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, qui est l'Église. Ici, c'est le peuple terrestre. L'ange parle avec le prophète, et il sort, un autre ange sort à sa rencontre, court, parle à ce jeune homme. Verset 4 du chapitre 2. Jérusalem sera habitée comme les villes ouvertes. Alors ceux qui avaient justement frappé le peuple d'Israël seraient coupables. Et puis après la gloire, chapitre 2, le verset 8, il m'a envoyé vers les nations qui ont fait de vous leur proie. C'est exactement la même expression qu'au psaume 73. Après la gloire, tu me recevras. Il faut que les nations soient entièrement châtiées, que les comptes de Dieu soient réglés avec le monde, et alors le peuple d'Israël sera restauré. D'abord, les tribus de Juda et de Benjamin, purifiées du crime qu'ils ont commis de la mort de Christ. Et c'est le travail de la grâce qu'on voit dans la fin du prophète Zacharie, particulièrement à la fin du chapitre 12. Et ensuite sera ajouté à ces deux tribus de Juda et de Benjamin, coupables du meurtre de Christ parce qu'elles étaient à Jérusalem lorsque les nations et le peuple d'Israël ont crucifié, ont livré Christ. Et puis des 10 autres tribus qui étaient dispersées dans le monde entier, on ne peut pas en trouver de traces maintenant. Elles sont dispersées, mais elles sont toujours présentes aux yeux de Dieu. Elles seront rassemblées, réunies pour faire les 12 tribus parce qu'il y a un seul troupeau, un seul bâton, un seul berger. Les deux bâtons du chapitre 11 seront, pour ainsi dire, remis en place alors qu'ils avaient été brisés. Alors au chapitre 3, c'est là-dessus que j'aurais voulu présenter quelques pensées, au chapitre 3, nous avons la quatrième vision, la quatrième des huit, et nous avons trois scènes successives. Dans la première, en fait, c'est essentiellement Joshua qui est en vue. Joshua, c'est Josué, c'est le nom du Seigneur Jésus dans l'Ancien Testament, Dieu Sauveur. Et Joshua est ici le type du grand souverain sacrificateur. Il y avait le sacrificateur, il y avait le prophète qui pouvait être Agé, Zacharie, et il y avait le roi qui était Zorobabel ou Néhémie, par exemple, le Tirshata. Le roi, le sacrificateur, le prophète. Ce qu'a été au fond David, si l'on y réfléchit bien, qui a été roi, loin selon le cœur de Dieu, qui a été le double psalmiste d'Israël et qui a eu la parole de prophétie, et en même temps qui a pris, en mangeant les pains de proposition par exemple, la position bénie de sacrificateur. D'une manière générale, dans la royauté d'Israël, il était formellement interdit de mélanger les deux fonctions royales et sacerdotales. Ozias l'a essayé pour sa perte, puisqu'il a été frappé de lèpre. Mais David, l'image du vrai David, il concentre dans sa seule personne ses merveilleuses fonctions, ses positions bénies de roi, de sacrificateur et de prophète. Christ a été le vrai, le grand prophète. Il est le roi. J'ai oint mon roi sur Sion. Il est sacrificateur, sacrificateur pour l'éternité. D'abord selon l'ordre d'Aaron, et ensuite selon l'ordre final de Melchizedek. Alors dans le chapitre 3, dans cette quatrième vision, nous avons Joshua qui se tient là et Satan se tient en face de lui pour s'opposer à lui. Pour ainsi dire, un tribunal dans le ciel où Joshua est probablement transporté, au moins en pensée. Et il y a l'ange de l'Éternel, figure probablement de Christ. Joshua, le grand sacrificateur, Satan se tient à sa droite pour s'opposer à lui. Chose terrible de penser que Satan est l'accusateur des frères. La pensée qu'on trouve en Apocalypse 12. L'accusateur des frères, il les accuse jour et nuit. Heureusement, son pouvoir antisacerdotal est compensé et au-delà par celui, le pouvoir infini, en grâce et en bénédiction du Seigneur Jésus qui est là, qui ainsi va contrecarrer et annuler les mauvais desseins de Satan. C'est une opposition fondamentale entre Christ et Satan. Habituellement, la chair est opposée à l'esprit. Habituellement, le monde est opposé à Dieu et Satan s'oppose à Christ. Satan délègue dans les temps à venir un des instruments terribles de son pouvoir sur la terre, qui est l'antichrist, le faux Christ. Il cherchera à séduire même les élus. Et puis, dans le pouvoir politique, il y aura la bête romaine, le pouvoir séculier, le pouvoir politique, de sorte qu'il y aura une trinité de mal qui s'opposera au saint et qui s'opposera à l'accomplissement des conseils de Dieu sur la terre et aussi dans le ciel. Alors nous avons cette scène où Joshua, pour les cinq premiers versets, versets 2 à 5, est l'image d'un pécheur, de chacun de nous par nature. Alors Satan l'accuse, il a des raisons. Regardez, celui-là, il est plein, il est rempli de vêtements sales. Le vêtement est le symbole de la profession habituellement, c'est ce qu'on voit dans un homme. Et sans vêtements, la personne est ce qu'elle est profondément, c'est-à-dire sans Christ, ce qu'est devenue la dernière église de l'Apocalypse, la Odyssée. Tu es nu, tu ne te rends pas compte. Eh bien, les vêtements sales sont le symbole ici terrible de ce qu'est l'homme dans ses péchés, complètement souillé. Souillé depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Est-ce une raison pour que la grâce de Dieu ne s'accomplisse pas, ne soit pas adaptée à ce besoin? Bien au contraire, Satan est complètement étranger à l'amour de Dieu. Satan ne voit que le mal puisqu'il est mal profondément en lui-même. Il s'oppose. Il s'oppose, mais c'est tout ce qu'il peut faire, accuser. Il n'a heureusement aucun pouvoir sur l'âme de l'homme. Il séduit, il entraîne, il amène jusqu'à la porte du désespoir, jusqu'à la porte du sauter la vie comme Judas. Il est entré dans Judas lorsque le Seigneur lui a donné le morceau, parce qu'il avait déjà vendu son maître et décidé de poursuivre son dessein de ténèbres jusqu'à la fin. Mais un jour, lorsque Dieu réglera ses comptes avec tous les impies, avec toutes les créatures tombées, pécheresses, célestes ou terrestres, ou alors se réglera le sort final des âmes, eh bien, Satan devra rendre compte pour lui-même, abandonnant ainsi Judas au sort qui est le sien éternellement. C'est une chose solennelle. Il n'en est pas de même de Joshua, parce que Joshua est le type ici du racheté, sauvé par la grâce, par la foi, par la pure, parfaite œuvre de Christ. Voilà pourquoi c'est un tison qui est sauvé du feu. c'est-à-dire le symbole du jugement, avant que le jugement arrive, Joshua est arraché au feu. Celui-ci n'est-il pas un tison sauvé du feu? Alors les vêtements de Joshua sont changés en vêtements de fête. Quelle est la différence entre un croyant et un homme dans ses péchés? C'est que ses vêtements sont complètement changés. Maintenant, le croyant a revêtu Christ. Vous avez revêtu Christ, Galates 3. Christ est la robe. Christ est la robe de la justice et la robe du salut. Jésus, le salut. Jésus, le bonheur. Jésus, la paix. Jésus, la joie. Vous avez revêtu Christ. Maintenant, tout est changé. Christ est notre justice. Nous sommes devant Dieu, sous le regard scrutateur de Dieu, qui sonde toutes choses. Nous sommes maintenant revêtus des perfections de la justice même de Dieu en Christ. Christ est le seul juste qui a donné sa vie pour les injustes, et maintenant ceux-là qui étaient injustes, qui étaient impurs, qui étaient souillés, sont revêtus des perfections de Christ lui-même. C'est ce que nous raconte le verset 4. « Regarde, j'ai fait passer de dessus toi ton iniquité, et je te revais d'habit de fête. » Qu'ils mettent une tiare pure sur sa tête, ils mirent la tiare pure sur sa tête, le revêtirent de vêtements, et l'ange de l'Éternel se tenait là. On n'entend plus parler de Satan. L'ange de l'Éternel était dans la première scène du premier verset du chapitre 3, le grand sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, Satan se tenant à sa droite pour s'opposer à lui. Le conseil de Satan est annulé. Et maintenant, la scène qui se présente est Joshua changé, l'ange de l'Éternel se tenait là. La tiare pure est probablement un souvenir de ce qu'était la tiare d'Aaron, du grand souverain sacrificateur qu'il portait avec la lame d'or, sainteté à l'Éternel, lorsqu'il entrait dans le sanctuaire pour accomplir son service. Maintenant, le sacrificateur de Joshua, symbole du pécheur souillé, pécheur, et qui est maintenant pécheur repentant, revêtu de la justice de Christ, va recevoir les instruments de son service, et va représenter plus tard le peuple lui-même comme cette famille sacerdotale devant Dieu pour exercer le service du sanctuaire. Il faut des habits de fête et une tiare pure sur la tête. L'Église est cela maintenant, par grâce, dans son ensemble. Et en pensant à ce que seront les noces de l'agneau dans le ciel, Apocalypse 19, nous pensons à cette robe éclatante, de fin lin éclatante et pure, c'est la justice. Les justices des saints, les actes justes des saints qui sont formés, constitués, réalisés sur la terre et qui trament et qui tissent cette robe merveilleuse qui sera la parure et la gloire de l'épouse lorsqu'elle sera présentée à l'agneau au jour de ses noces. On peut rappeler que intrinsèquement ce n'est pas des choses que nous pouvons apporter nous-mêmes. L'Église est souvent comparée, en particulier dans Matthieu 13, à une perle de très grand prix. Les pierres précieuses sont la figure de la gloire de Dieu, soit dans la création, soit sur les vêtements du souverain sacrificateur, soit quelquefois aussi pour l'Église, l'Église de la Nouvelle Jérusalem. Il y a les 12 pierres aux portes et les perles. Et ce qui caractérise soit une perle, soit une pierre précieuse, c'est que sa valeur ne se voit, son prix n'est mis en valeur que dans la mesure où la lumière l'éclaire. Et un diamant bien taillé reflète et divise la lumière dans toutes ses parties. Tout à fait merveilleux de voir comment le prisme divise toutes les différentes longueurs d'onde de la lumière. Et cette lumière, quelle est-elle? C'est évident, c'est Christ. Et c'est ce que nous dit si beau Cantique 64, c'est que les gloires de l'Église seront mises en valeur par la joie du cœur de Christ lorsque elle sera éclairée par la lampe de l'agneau. Il n'y a plus de nuit, il n'y a plus de soleil, il n'y a plus besoin de rien. Des autorités suprêmes dérivées ou subalternes dans la première création, c'est Christ qui demeure la lumière, c'est Dieu qui est lumière, et l'épouse reflète la lumière pour la joie du cœur de Christ. Et maintenant, il s'agit de continuer, il s'agit de marcher, il s'agit d'accomplir le service. Et les versets 6 et 7 de ce chapitre 3 nous disent quelque chose de très important pour nous à travers l'exemple de Joshua. Alors l'ange de l'Éternel maintenant parle à Joshua. La question de la position de Joshua devant Dieu et les attaques de Satan étant réglées, maintenant Joshua est rendu propre pour accomplir un service. Quel est ce service? Eh bien, c'est le service sacerdotal. C'est l'Église qui est maintenant sur la terre, compagnie de sacrificateurs et qui doit exercer le service de la louange, de l'adoration, le service de maintenir en particulier la vérité dans un monde de ténèbres, en attendant que le service de la louange et de l'adoration se poursuive éternellement et en perfection dans le ciel. Le culte est le seul service donné à l'Assemblée qui se commence sur la terre et qui se perpétue dans le ciel. Alors versets 6 et 7, l'ange de l'Éternel protesta à Joshua, disant, ainsi dit l'Éternel des armées, si tu marches dans mes voies, et si tu fais l'acquis de la charge que je te confie, alors tu jugeras aussi ma maison, et tu auras la garde de mes parvis. Joshua représente donc le peuple maintenant, le peuple d'Israël, comme ce peuple qui appartenait à Dieu pour son service. L'expression « si tu marches dans mes voies » se trouve plusieurs fois, en particulier en 2 Chroniques 13, vaut la peine de lire les deux ou trois passages correspondants, 2 Chroniques 13, et les deux tribus qui étaient encore plus fidèles que les 10 autres tribus qui mûrissaient déjà vers la fidélité, au verset 10, c'est Abija, qui est le petit-fils de Salomon. Nous savons que le royaume était déjà divisé à ce moment-là. 2 Chroniques 13, verset 10. L'Éternel est notre Dieu, nous ne l'avons pas abandonné. Des sacrificateurs fils d'Aaron servent l'Éternel. Et les Lévites sont à leur fonction. Et chaque matin et chaque soir, ils font fumer les holocaustes à l'Éternel et l'encens de drogues odoriférantes. Nous avons les pains rangés sur la table pure, le chandelier d'or et ses lampes pour brûler chaque soir. Car nous, nous faisons l'acquis de la charge que l'Éternel, notre Dieu, nous a confiée. Mais vous, vous l'avez abandonnée. On oserait difficilement transcrire de telles paroles à ceux qui ont encore à cœur de marcher dans le chemin de l'obéissance à Christ et à la parole, en disant que les autres ont abandonné ce chemin. Mais néanmoins, ce que nous avons à faire, c'est essayer de nous concentrer à être fidèles dans ce que le Seigneur nous a confié, pour le garder fidèlement et ne pas le laisser échapper des mains qui sont souvent faibles, toujours faibles et souvent lassées. Qu'y avait-il ici, dans le service ? L'autel des reins figure de la croix. L'autel d'or figure du parfum de la louange, c'est le culte. La table, eh bien, c'est le symbole de la communion. L'unité du corps de Christ, vue dans le seul pain de la table, le seul pain de la scène à la table du Seigneur, est le chandelier. Christ est la lumière du monde. Tant que je suis sur la terre, je suis encore. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Maintenant, où est la lumière du monde ? Elle est dans les saints, dans les rachetés, pas ailleurs, puisque le monde est le monde de ténèbres. Ensuite, dans Malachie, passage qui est à côté de celui que notre frère a lu ce matin, Malachie 3,14, une question qui est, on oserait peut-être dire, presque une moquerie, une question qui est complètement négative. Malachie 3,13, vos paroles ont été fortes contre moi, dit l'Éternel, et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi ? Vous dites, c'est en vain qu'on sert Dieu. Quel profit y a-t-il à ce que nous fassions l'acquis de la charge qu'il nous a confiée ? Ce ferreur, c'est la 9e et dernière de ces questions qui sont posées dans ce si intéressant prophète. Quel profit y a-t-il à ce que nous fassions l'acquis de la charge qu'il nous a confiée et que nous marchions dans le deuil devant l'Éternel des armées ? Alors on tenait les heureux pour orgueilleux et ceux qui pratiquaient la méchanceté étaient établis. C'est exactement la même pensée qu'Azaph avait entretenue dans son cœur avant qu'il entre par la foi dans les sanctuaires de Dieu et qu'il comprenne le terme. Parce qu'il y a un terme dans les choses de Dieu, dans la vie des hommes sur la terre. Il y a un moment où les choses sont révélées. Eh bien, il y a un grand profit, au contraire, chers jeunes, à faire l'acquis de la charge que le Seigneur nous a confiée et à marcher même dans le deuil devant l'Éternel des armées. On ne se force pas à être triste, mais dans la mesure où on comprend un peu la ruine de l'Église, eh bien, on peut être en même temps qu'attristé, en même temps, heureusement, toujours joyeux, parce que la joie de l'Éternel est notre force. Mais faire l'acquis de la charge qu'il nous a confiée, c'est justement marcher humblement avec Dieu. Comment pouvons-nous le faire ? Comment pouvons-nous être agréables à Dieu ? Il t'a déclaré, ô homme, ce qui est bon, est-il dit en Michée. Marcher humblement avec son Dieu. Marcher dans le deuil devant l'Éternel des armées. Les orgueilleux ne sont pas heureux. Ils tiennent peut-être le haut du pavé, excusez-moi l'expression, mais pour un temps seulement. Et un jour, les choses seront renversées et placées dans la juste mesure, selon l'ordonnance, selon la mesure divine des choses. Eh bien, dès maintenant, il y a un livre de souvenirs qui est écrit. Ceux qui craignent l'Éternel ont parlé l'un à l'autre. Voilà la communion de ces deux ou trois. Voilà la communion de ceux qui ont à cœur, malgré leur faiblesse, de faire l'acquit de la charge qui leur a été confiée. Eh bien, qu'ont-ils en commun? Ils pensent au nom de la personne absente. Comment pouvons-nous penser au nom du Seigneur Jésus? Il y a un moyen évident, ordonné de Dieu. C'est la déclaration d'amour du Seigneur Jésus à ses disciples, la nuit même où il a été livré. Faites ceci en mémoire de moi. Penser au nom d'une personne, c'est l'identifier avec cette personne même. Dans le chemin de tes jugements, nous t'avons attendu. Le désir de notre âme est après ton nom et après ton souvenir dans ce si beau cantique d'Ésaïe 26 que Dieu lui-même placera dans la bouche du résidu qui attend la délivrance. L'autre expression que l'on trouve en de faire l'acquit de la charge, elle est en Ézéchiel 44. Alors, Ézéchiel 44, le verset 15, les sacrificateurs, les Lévites, fils de Tsadok, qui ont fait l'acquit de la charge de mon sanctuaire, quand les fils d'Israël sont égarés d'auprès de moi, eux s'approcheront de moi pour faire mon service. Verset 16, eux s'approcheront de ma table pour faire mon service, ils feront l'acquit de la charge que je leur confie. On doit retrouver une expression comparable au chapitre 48, le verset 11. Au dernier chapitre d'Ézéchiel, c'est la page 611. L'offrande sera pour les sacrificateurs qui sont sanctifiés d'entre les fils de Tsadok, qui ont fait l'acquit de la charge que je leur ai confiée, qui ne se sont pas égarés dans les égarements des fils d'Israël comme les Lévites se sont égarés. Dans les sacrificateurs, les Lévites, chose remarquable ici, c'est que la confusion volontaire par le Saint-Esprit, l'identification peut-être, on pourrait dire, entre les Lévites et les sacrificateurs. Les Lévites représentaient tous ceux qui appartenaient à cette tribu mise à part pour Dieu, et les sacrificateurs faisaient partie de la famille des descendants de la famille sacerdotale prise d'entre la tribu de Lévi, c'est-à-dire des descendants d'Aaron. Alors les sacrificateurs, les Lévites, ils se sont identifiés, ils sont ceux qui sont les descendants de Tsadok. Il y avait eu deux généalogies de sacrificateurs, et l'une a été complètement infidèle, celle qui descendait d'Élie, le sacrificateur, qui avait laissé ses fils s'avilir et ruiner au fond la sacrificature au début de la période de Samuel, avant l'introduction de la royauté. Cette génération a été mise de côté. Tsadok, au contraire, est resté fidèle à David dans le temps de la réjection du roi. Lorsque le roi était l'objet de tant de violences de la part de sa propre famille et de son propre peuple, Tsadok est resté fidèle. Mais cette famille sacerdotale, Tsadok, aura en fait une place privilégiée, une place particulière, même dans le temps à venir, en Ézéchiel. Mais leur caractère, c'est de faire l'acquit de la charge du sanctuaire de Dieu. Et il est de toute beauté de voir en détail ce que sera le service de cette famille sacerdotale dans les temps à venir. Alors, si nous parle dans les versets 6 et 7 du chapitre 3 de Zacharie, du service qui est confié à l'Assemblée, au fond, on peut dire que Dieu forme déjà l'Église sur la terre pour l'accomplissement du service éternel, du service de la louange, de l'adoration dans le sanctuaire, dans le ciel. Alors après, les versets 8 à 10 nous élèvent encore. Dans la première partie du chapitre 3, c'était Josué représentant le pécheur purifié, revêtu d'habits de fête. Dans le paragraphe suivant, les versets 6 et 7, c'était le service, Josué typifiant le peuple. Maintenant, la scène s'élève et nous enlève au-dessus du peuple, pour nous voir ce qui est le conseil même de Dieu, et nous avons une si belle figure de Christ, versets 8, 9 et 10. Josué, grand sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant moi. Nous sommes appelés les compagnons du Seigneur, dans la présence de Dieu. Cette expression des compagnons se trouve plusieurs fois. On l'a lu ce matin, sauf erreur. Verset 7 du chapitre 13 de Zacharie. Frappe le berger. Contre l'homme qui est mon compagnon, dit l'Éternel des armées. Christ est le compagnon légal du Père. Il n'y avait aucune déclaration, témoignage visible de ce qu'était ce Christ lorsqu'il était sur une croix d'infamie partageant la condamnation des malfaiteurs. Mais qui était-il? Il était le compagnon et l'égal du père. Lorsqu'il est vu comme un passereau solitaire, comme sous l'indignation et la colère de Dieu, que dit la grâce de Dieu à l'égard du Fils ? Eh bien, tu as jadis fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Et Paul, instruit par le Saint-Esprit, prend cet exemple du psaume 102 comme un des sept témoignages de l'Ancien Testament pour déclarer les gloires de Christ comme Fils de Dieu. Voilà ce qu'est Christ sur la croix, le compagnon et l'égal de Dieu. Dieu, il est le Fils du béni, mais il est le béni lui-même. Dieu béni sur toute chose éternellement. Alors dans la nouvelle création maintenant, nous sommes les compagnons du Christ parce que nous appartenons à cette maison dont Christ est Fils et Chef. La maison du Fils, la maison du Chef, Christ. Nous sommes donc ses compagnons si du moins nous retenons ferme la confession. Et puis dans le siècle à venir, au psaume 45, eh bien le Seigneur sera toujours la ouais d'une huile de joie au-dessus de ses compagnons. De sorte que Christ est à la fois le compagnon et l'égal du Père, et par grâce les rachetés terrestres sur la terre pendant le millénium sont les compagnons du Fils de Dieu, du vrai Messie, reçu comme roi, et dans le ciel, nous serons les compagnons de celui qui est chef sur toute chose à l'Assemblée, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ici, Joshua, grand sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant moi. Alors, le serviteur, c'est le germe. Le serviteur, le germe, c'est celui qui a la puissance de la vie en lui-même. Il montera devant lui comme un rejeton, comme une racine sortant d'une terre aride. Il n'a ni forme ni éclat. Et pourtant, ce qui sortait de cette terre aride du désert de ce monde, c'était celui qui avait non seulement le germe de la vie, mais la puissance de la vie pour vivre et communiquer la vie. Cette expression merveilleuse du serviteur, le germe, nous la trouvons ici d'abord comme serviteur en Zacharie 3, 8. Mon serviteur, le germe. Mais dans l'ordre, puisque nous y trouvons la figure des quatre évangiles, il faudrait mieux lire d'abord le passage de Jérémie 23, qui nous présente le Christ comme le germe roi. L'expression se trouve deux fois. En Jérémie 23, le verset 5, « Des jours viennent, dit l'Éternel, et je susciterai à David un germe juste. Et il régnera en roi et prospérera, exercera le jugement et la justice dans le pays. Dans ces jours, Juda sera sauvé et Israël demeurera en sécurité. Et c'est ici le nom dont on l'appellera l'Éternel, notre justice. » Ensuite, sauf erreur, c'est au chapitre 33. Trouve une expression comparable, chapitre 33, page 549, au verset 15. « En ce jour-là et en ce temps-là, je ferai germer à David, un germe de justice, et il exercera le jugement et la justice dans ce pays. » Alors, Christ comme germe est le roi, celui que Dieu a oint roi sur Sion. C'est un roi qui exercera le jugement et la justice, qui sont les deux bases connues du trône de Dieu, suivant l'expression connue du psaume 89. Le jugement a été séparé de la justice lorsque Pilate a condamné le juste. Alors qu'il avait le pouvoir dans sa main, il en a usé de manière scandaleusement injuste. Le scandale de la croix est une expression scripturaire de Galates. Eh bien, désormais, le jugement retourne à la justice. Mais ceux qui sont droits de cœur s'en réjouissent, parce que les choses reviennent à leur place. Et où ce jugement et cette justice se trouvent-ils réunis, sinon dans la main, dans le sceptre de celui qui est le roi de justice, Christ. Et en même temps, Christ est celui qui a le germe de la vie. Donc Matthieu, le germe roi, nous le trouvons en Jérémie 23 et 33. Marc, le serviteur prophète, nous le trouvons en Zacharie 3, mon serviteur, le germe. L'homme, l'évangile selon Luc, nous le trouvons sur la même page, au chapitre 6 de Zacharie, au verset 11. Tu les mettras, ces couronnes, sur la tête de Josua, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur. Et tu lui parleras, disant, « Ainsi parle l'Éternel des armées, disant, « Voici un homme dont le nom est Germe, et il germera de son propre lieu, et il bâtira le temple de l'Éternel. » Nous avons donc ici la figure de Christ comme fils de l'homme, dont les caractères sont présentés tout au long de l'Évangile selon Luc. Et en même temps, il nous reste à trouver La dernière expression, nous avons le Fils de Dieu, c'est dans Ésaïe, au chapitre 4, que nous trouvons le Fils de Dieu, le germe Fils de Dieu. Ésaïe 4, le verset 2. En ce jour-là, il y aura un germe de l'Éternel pour splendeur et pour gloire, et le fruit de la terre pour magnificence et pour ornement. On peut lire le passage aussi d'Ésaïe 11, verset 1er, il sortira un rejeton du tronc d'Isaïe et une branche de ses racines fructifiera. Mais alors là, l'Esprit Saint est présenté dans le verset suivant, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et lie le caractère de Christ, Fils de Dieu, du premier verset, au caractère de Messie et de Roi. C'est-à-dire qu'en fait, on referme cette scène merveilleuse où on trouve dans ces deux versets à la fois le Roi, c'est Matthieu, et le Fils de Dieu, c'est l'Évangile selon Jean. Il est dit quelque part, je crois que c'est dans Hébreux 7, que Christ s'est levé. Hébreux 7. À l'égard de celui auquel des choses, personne n'a été attaché à l'autel, il est évident que notre Seigneur a surgi de Judas. Alors la note nous aide bien, la note petit b, où il s'est levé. Les 70, la version donc latine, disait, rendait le germe de Jérémie 23, Zacharie 3, par lever du soleil ou lever de l'Orient. Non seulement Christ est la vie, il a la vie en lui-même, mais il est cet Orient d'en haut qui a visité le peuple dans sa misère. Et c'est la raison pour laquelle le tabernacle s'orientait, était tourné vers l'Orient. Les portes, les voiles, qui marquaient l'entrée du parvis et l'entrée du tabernacle lui-même dans le désert, étaient toujours dirigées vers l'Orient, c'est-à-dire vers le lever du soleil. Et ce lever du soleil, eh bien évidemment, c'est Christ. D'ailleurs, ce que la terre attend, non pas nous, nous attendons nous, parce qu'elle est déjà levée dans le ciel de nos cœurs, c'est l'étoile brillante du matin, c'est l'attente et l'espérance ardente de l'Église. Mais la terre tout entière, renouvelée plus tard sur la base du sacrifice de Christ, attendra le lever du soleil de justice. Expression que l'on trouve une seule fois en Malachie 4. Nous avons donc Christ présenté ici sous les traits de Joshua, maintenant, comme serviteur de l'Éternel, le germe. Il est beaucoup plus que cela, il est aussi la pierre. C'est-à-dire, il est la pierre de fondement. Et c'est dans Genèse 49 que nous avons l'explication de cette pierre. Le verset 25. De là est le berger, la pierre d'Israël. Du Dieu de ton Père, il t'aidera. Et du Tout-Puissant, il te bénira des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions de l'abîme qui est en bas, des bénédictions des mamelles et de la matrice. Les bénédictions de ton Père surpassent les bénédictions de mes ancêtres, jusqu'au bout des collines éternelles. Elles seront sur la tête de Joseph et sur le sommet de la tête de celui qui a été mis à part de ses frères. Et on trouve beaucoup de traits moraux de Joseph, ici, béni par son père Jacob à la mort de celui-ci. Avec ce qui nous est dit, les gloires de Christ, justement, dans ces passages qui nous occupent en Zacharie. Il y avait 7 yeux sur cette pierre. Donc la pierre, c'est le fondement. C'est le vrai Joseph qui est le fondement, le berger, la pierre d'Israël. Alors évidemment, il n'y a pas d'extrapolation à faire, puisque le Seigneur Jésus et les épîtres de Paul nous disent que l'assemblée est formée, fondée sur Christ et sur son œuvre. Et que selon la révélation que le Père avait faite à Pierre de la gloire de Christ comme le Messie, le Fils du Dieu vivant, eh bien sur cette révélation-là, Christ lui-même bâtirait son assemblée en même temps qu'elle est bâtie par le conseil éternel de Dieu, bâtie sur la terre pour le ciel, pour l'éternité. Alors ici, c'est la pierre, nous sommes encore sur la terre, mais on applique sans aucune difficulté à l'ordre spirituel des choses. La pierre est la sept yeux. Les sept yeux, on les trouve au verset 10 du chapitre 4. Ce Ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Les yeux de l'Éternel, celui qui se montre fort envers ceux qui lui sont attachés, qui lui sont fidèles. Et les yeux aussi qui ont l'acuité parfaite pour juger de toute chose. C'est quelque part d'ailleurs qu'on trouve une de ces prophéties qui dit que le messager avait été voir l'ensemble du monde et qu'il n'y avait rien à signaler. C'est un peu avant. Alors la pierre, il y a les sept yeux, la gravure de cachet. En ce jour-là, verset 10, dit l'Éternel des armées, vous convierez chacun son prochain sous la vigne et sous le figuier. C'est la bénédiction finale, millénaire, du peuple terrestre. Et il a fallu d'abord l'œuvre de la grâce, pour nous l'œuvre de la croix, il a fallu la mise à part du peuple pour Dieu, pour le sacrifice, pour le service sacerdotal, il a fallu Christ comme le serviteur, le germe, celui qui a la vie en lui-même, celui qui la communique, qui devient pierre, fondement, fondation de toute la bénédiction. Et il y a les sept yeux qui sont, nous dit Apocalypse 5, sauf erreur, les sept esprits de Dieu qui sont envoyés sur toute la terre. Au chapitre 4, je ne veux dire qu'un mot des chapitres 4 et 5, qui sont tout aussi intéressants, mais le temps avance. Au chapitre 4, nous avons en fait, si Christ est souverain sacrificateur au chapitre 3, il est roi au chapitre 4. Et au chapitre 5, il est juge. Au chapitre 4, c'est l'ange qui parlait avec le prophète Zacharie, qu'il réveille comme un homme qu'on réveille de son sommeil. Il dit, que vois-tu? On voit le chandelier tout d'or. Il y avait les deux conduits au verset 14. Ce sont les deux fils de l'huile. Et on a eu l'habitude de dire que, de penser que ces deux fils de l'huile sont à la fois la royauté et la sacrificature de Christ. Alors ce chapitre, non, je ne veux pas entrer dans les détails, nous disent quelque chose de très beau qui s'ajoute au verset 9 du chapitre précédent. Au chapitre 3, c'était Christ comme pierre. Et au chapitre 4, le verset 7, la pierre est maintenant une pierre de fête avec des acclamations, grâce sur elle. Si j'ose dire, c'est la clé de voûte maintenant. Christ est à la fois la pierre de fondation, la pierre de fondement sur laquelle l'édifice s'est édifié, et est aussi la clé de voûte. Dans une voûte en maçonnerie, si on supprime la clé de voûte, la pierre centrale, la clé de la voûte, en fait, la voûte n'a plus de résistance, va s'effondrer. Christ est à la fois celui qui est la fondation de cet édifice merveilleux, spirituellement pour nous l'Église, et en même temps, il est celui qui en est l'ornement. C'est une pierre de fête. C'est habituellement cette pierre qui est ornée dans les édifices des hommes. Mais pour nous, verset 6, « Ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Il est dit quelque part qu'il a méprisé le temps des petites choses. Eh bien, nous n'avons pas les mépriser. C'est un temps de petites choses, mais en même temps, ce n'est ni par force, ni par puissance que maintenant nous pouvons agir. C'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Et le prophète Agé, dans la page précédente, nous donne trois promesses pour le résidu qui sont confirmées par Paul aux anciens d'Éphèse. La présence de Dieu, je suis avec vous, mon esprit, mes paroles, selon laquelle j'ai fait alliance avec vous lorsque vous sortîtes d'Égypte. Ces choses-là, elles sont données, sont les trois ressources de la foi pour tous les temps, pour le peuple terrestre. S'il n'y a plus de force et de puissance dans un petit résidu qui n'avait que 40 000 personnes, où il n'y avait aucun lévite pour servir, il n'y avait que peu de force parmi les chefs du peuple, encore moins parmi le peuple lui-même, qu'y avait-il qui leur restait? Bien, tout ce qui était nécessaire pour quand même être heureux, être fidèle, et quand même avoir la puissance par Christ. Ni par force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Lorsque Paul quitte les anciens d'Éphèse, qu'il a fait venir à Milet, il leur dit, je vous recommande à Dieu, à la parole de sa grâce, qui a la puissance d'édifier, et de vous donner un héritage avec tous les sanctifiés. Au chapitre 5, il y a deux sujets successifs, deux jugements. Le jugement d'ordre moral, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu dans le monde d'alors. Les voleurs, ceux qui juraient faussement, toutes ces choses-là, eh bien, un jour, Dieu les jugeait, il y aura un rouleau de jugement. Chapitre 5, la vision des quatre premiers versets, c'est la sixième vision, c'est le rouleau, un rouleau qui vole long de 20 coudées. C'est le jugement par Dieu le rouleau du jugement, du mal moral. Mais la suite au verset 5 à 11, c'est le jugement religieux, l'Épha qui sort, la méchanceté, les cigognes. Et l'Épha est transporté par les cigognes et leurs ailes, ou dans le pays de Shinar. On sent bien qu'on est sur le terrain de l'iniquité religieuse, parce que le pays de Shinar, qui est le lieu d'habitation de la cité de Babylone, symbole dans la première cité de Babylone de la deuxième, nous savons qu'il y a eu deux grandes cités à partir des temps du déluge, d'un côté Babylone dans la plaine de Shinar, et de l'autre côté il y a eu Ninive, l'apostasie religieuse chrétienne. Alors l'Antichrist c'est l'apostasie religieuse juive, ces deux apostasies qui s'opposent chacun de leur côté à Christ et à son Dieu. C'est une chose terrible de penser comment l'homme va pouvoir s'égarer pour s'élever contre Dieu par pur orgueil, avant d'être complètement brisé sans remède. La dernière prophétie, la huitième prophétie, occupe les huit premiers versets du chapitre 6. Je voudrais conclure sur les conclusions des visions. Et ces conclusions sont de toute beauté, elles se présentent dans les versets 9 à 15 du chapitre 6. Il y a donc eu huit visions, plus la conclusion de toutes celles-ci. Au verset 9, la parole de l'Éternel vint à moi, disant, « Prends la part de ceux de la transportation. En ce même jour, tu prendras de l'or, de l'argent et des couronnes. » Verset 11. Et ces couronnes, ce sont des tiares composés de plusieurs couronnes. Alors, qui est celui sur qui la couronne doit être mise? Cette tiare a plusieurs couronnes. Sur la tête de Joshua, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur. Donc, en fait, on voit bien que c'est Christ maintenant qui est de nouveau vu dans la figure de Joshua, c'est la suite, en fait, du chapitre 3, du verset 8. Joshua est un type de Christ. Maintenant, Joshua, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, est celui sur qui la couronne est placée. Il l'a revêtu d'une couronne d'orfin. Il lui a donné la gloire. Mais celui-là, qui est vêtu de gloire, qui est revêtu de gloire et qui reçoit sur son front, un diadème, une couronne d'or pur, d'or fin, qui remplace la couronne d'épines que le monde, dans sa folie et sa méchanceté, ont placée sur la tête du Sauveur bien-aimé, lorsqu'on a déclaré « Ecce homo, voici l'homme », eh bien, celui-là même, il a des compagnons. Et ces compagnons, ils sont deux origines, de deux natures. D'un côté, et la scène se passe à Jérusalem en gardant le souvenir de Babylone. C'est absolument de toute beauté. Jérusalem, c'est le lieu où la mémoire du nom de Dieu était placée. C'est le lieu où Dieu avait promis sa présence. C'est l'assemblée des deux ou trois réunis au nom du Seigneur Jésus. C'est tout à fait clair. Dans ce lieu-là, le grand sacrificateur Christ reçoit la gloire, reçoit la couronne, reçoit le diadème. Et il y a autour de lui, dans celui-là qui est le nom, dans l'homme qui a germe comme nom et qui germe son propre lieu, lui qui porte la gloire, eh bien il y a en même temps des couronnes qui sont données à trois ou quatre des serviteurs, dont certains sont montés de Babylone. Elem, Tobija, Jedaya et En, fils de Sophonie. Je n'entre pas dans les détails, ces hommes ont leur nom qui est changé par rapport à la liste qui est donnée au début du verset 10. Ils étaient venus de Babylone, où ils étaient déjà à Jérusalem. Eh bien, quel que soit l'état de dispersion de l'Église sur la terre, il y a quelque chose de précieux pour le cœur de Christ dans ce système religieux général. Et il est absolument impossible de comprendre comment, dans la sagesse de Dieu, Christ lui-même, pour son propre cœur, se garde des âmes fidèles. Il est leur sauveur pour l'aimer, garder dans une mesure ce que le Seigneur leur donne à garder dans un système qui, dans son ensemble, est quand même condamné et partagera la condamnation du monde religieux de la fin. Comment pouvons-nous comprendre ces choses? Nous n'avons pas y entrer, c'est le secret de Dieu. Ce que nous avons à faire, nous, à notre place, bien, c'est de garder justement fidèlement ce qui nous a été confié. Faire, dans cette mesure-là, l'acquis de la charge que le Seigneur nous a confiée, et le terme, c'est jusqu'à ce que le Seigneur vienne.